École normale supérieure, savoir en multimédia.
La recherche sur l'éthique de Spinoza a longtemps porté, en particulier dans les études anglo-américaines, sur les deux premières parties de l'ouvrage. Ainsi, le champ des études spinozistes a-t-il été dominé par les discussions sur la doctrine de la substance, Deus in natura, les rapports nécessité et liberté, ou encore entre l'esprit et le corps? Pourquoi? Peut-être pour assigner à Spinoza sa place entre Descartes et Leibniz dans le panthéon métaphysique et épistémologique de l'âge classique. Reste que beaucoup, à commencer par les étudiants qui découvrent Spinoza dans le cadre d'un cours d'histoire de la philosophie moderne, se sont légitimement demandé pourquoi l'ouvrage était intitulé « Éthique », puisqu'apparemment aucune question d'éthique n'est abordée, n'a été abordée. L'explorateur courageux qui va au-delà des deux premières parties de l'ouvrage et qui s'avance dans le territoire de la troisième partie avec les détails de la psychologie des affects et qui progresse dans les quatrième et cinquième parties dans lesquelles Spinoza se tourne vers la vertu et la liberté, aura une meilleure idée du grand projet spinoziste et prendra conscience des ramifications des difficiles propositions initiales portant sur Dieu, la nature et la nature humaine en vue de sa libération de la servitude due aux passions. Mais on excusera toujours un tel lecteur de continuer à se demander ce qu'il y a de proprement moral dans ce chef-d'œuvre, puisqu'il ne semble pas que Spinoza y pose la question d'autrui, c'est-à-dire celle de notre rapport aux autres. Pourtant, Spinoza n'ignorait évidemment pas qu'un ouvrage intitulé « Éthique » se doit de dire quelque chose du rapport à autrui. Et de fait, dans une brève série de propositions de la quatrième partie, il formule directement cette question. La discussion à laquelle elle donne lieu n'est pas seulement brève, elle est aussi critée et requiert de la part du lecteur une véritable élaboration. En outre, j'y reviens immédiatement, la difficulté s'accroît si l'on considère que la philosophie morale de Spinoza est fondée sur une détermination que j'appellerai égoïste de la motivation humaine. Il nous faut donc montrer comment des agents strictement motivés par leur intérêt propre pourraient être aussi amenés à traiter les autres d'une manière que nous-mêmes, avec une conscience peut-être plus forte des exigences altruistes, reconnaîtrions comme vertueuses. Autrement dit, il s'agit de se demander si l'égoïsme de principe de la philosophie morale de Spinoza peut aussi s'avérer capable de proposer des solutions normatives pour traiter les autres d'une manière que nous considérerions de façon habituelle et pour ainsi dire préthéorique comme éthique. Égoïsme. Dans la troisième partie de l'éthique, Spinoza aborde ce qu'il nomme la puissance d'agir, potentia agendi, ou force d'exister, vis existendi. Tout individu dans la nature, c'est-à-dire chaque mode fini de la substance éternelle et infinie, est une expression partielle et limitée du pouvoir même de Dieu, c'est-à-dire de la nature. Ce pouvoir infini de la nature se manifeste selon l'attribut de la pensée, sous la forme d'esprit individuel, et selon l'attribut de l'étendue, sous la forme de corps individuel. Chaque esprit individuel est une expression finie ou limitée du pouvoir infini de Dieu selon la pensée. De même, chaque corps particulier est une est une expression finie ou limitée du pouvoir infini de Dieu selon la matière et le mouvement. Ce quantum fini de pouvoir qui constitue chaque chose individuelle est ce que Spinoza nomme conatus. Dans n'importe quelle chose particulière, cette détermination finie de pouvoir se manifeste comme une force de persévérer. Comme Spinoza le dit en troisième partie, proposition 6, chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Il y a dans toutes les choses, sans exception, les esprits et les corps, une sorte d'inertie existentielle par laquelle elles s'opposent à tout ce qui les détruirait ou les amoindrirait. Cette sorte d'inertie n'est pas un aspect temporaire ou limité de la chose, quelque chose sans quoi elle pourrait néanmoins exister. Elle ne se manifeste pas non plus seulement en présence d'une force qui s'y opposerait. Au contraire, il s'agit d'une force positive et constante dans un individu pour se maintenir et même augmenter son pouvoir. Et elle est susceptible d'une durée indéfinie. Elle provient d'un fond métaphysique qui permet de distinguer les choses dans la mesure où, précisément, elles sont des parcelles distinctes du même pouvoir de la nature. En effet, Spinoza dit que ce conatus constitue l'essence actuelle d'une chose. Il n'est pas différent de la chose elle-même, il dit. Il explique ainsi pourquoi les pierres sont difficiles à casser, pourquoi un corps en mouvement ou au repos reste en mouvement ou au repos en absence d'une force extérieure, pourquoi le corps humain lutte contre la maladie et pourquoi nous désirons les choses que nous désirons. Est-ce que vous pouvez comprendre mon français? C'est assez bien. J'ai vu une personne qui a pâti, donc c'est peut-être parce qu'elle a attendu un français peut-être plus mieux. Mais, outre sa fonction de fondation de la force dans une physique qui reste essentiellement cartésienne, le concept métaphysique de conatus est au cœur de la psychologie morale de Spinoza. Spinoza définit, en effet, les affects en général comme des changements de conatus, des passages ou des transitions de la puissance d'agir à un degré plus ou moins grand. Les affects passifs ou les passions sont les transitions opérées dans la puissance d'un individu sous l'effet des choses extérieures. La joie, les titia par exemple, est une transition vers une puissance d'agir plus grande. Et la tristesse est une transition vers une moindre puissance d'agir, ces transitions étant provoquées par un objet extérieur. De tels changements dans la puissance sont le fondement, le motif qui meut les gens à faire telle ou telle chose. Nos recherches et nos aversions des choses, nos choix d'action, nos jugements sur ce qui est bon et ce qui est mauvais sont toujours motivés par la joie et la tristesse, l'amour et la haine, le plaisir et la douleur. Bref, par les modifications dans notre effort pour persévérer en l'existence. Nous recherchons les choses parce que nous les aimons. Et nous les aimons parce que nous sommes conscients qu'elles provoquent une augmentation de nos capacités. Le conatus est donc le motif, entendant la force motrice, qui se trouve à la base de tous nos efforts. Toujours et nécessairement, nous nous efforçons vers les choses dont nous croyons qu'elles sont de nature à promouvoir notre bien-être, et en particulier le bien-être du corps dont dépend notre existence. C'est pourquoi de la vie de Spinoza, les gens sont fondamentalement égoïstes. On est incité à poursuivre ou à éviter telle ou telle chose que par les affects, que par les effets positifs ou négatifs qu'on pense qu'une chose aura sur notre propre condition, par nos croyances sur la contribution de la chose à notre projet de persévérance. Cet effort pour persévérer est primordial. Spinoza dit qu'il n'est rien d'autre que l'essence même de l'homme, de la nature de laquelle suit nécessairement ce qui sert à sa conservation. Spinoza dit donc que l'homme est déterminé à faire ce qui sert à sa conservation. Jusque-là, cependant, Spinoza ne nous a présenté qu'un égoïsme psychologique. Chaque agent fait toujours et nécessairement ce qu'il estime être dans son propre intérêt. Ce qu'il pense conduire à une augmentation de sa puissance d'agir. Les choses se compliquent et deviennent plus intéressantes du point de vue éthique quand nous considérons la définition que Spinoza donne de la vertu. De la vertu. La puissance ou l'effort d'un agent peuvent être dictés ou par les croyances qui proviennent de l'expérience vague, c'est-à-dire par hasard, ce que Spinoza appelle les idées inadéquates, ou par la connaissance, les idées adéquates. Quand le conatus de quelqu'un est dirigé par le sens et l'imagination, cette personne poursuit les choses qu'elle croit être bonnes pour elle, mais sur une base déficiente. Inversement, quand le conatus est dirigé par la vraie connaissance, nous poursuivons régulièrement les choses qui augmentent vraiment notre puissance d'agir. Spinoza identifie d'abord la vertu comme la puissance même. Il dit, ici je cite, « Par vertu et puissance, j'entends la même chose, c'est-à-dire la vertu en tant qu'elle se rapporte à l'homme, et l'essence même ou la nature de l'homme en tant qu'il a le pouvoir de produire certains effets qui peuvent se comprendre par les seules lois de sa nature. » Cette définition comprend beaucoup de choses, et il est important de séparer les divers éléments qui constituent, selon Spinoza, ce qu'est vivre selon la vertu. En quatrième partie, proposition 18 à Scolium, dans l'énoncé qui reprend la doctrine stoïcienne de la vertu comme agir selon la nature, Spinoza nous offre une version plus condensée de la définition. Il dit, la vertu n'est rien d'autre qu'agir selon les lois de sa nature propre. Mais la nature d'une chose, quelle qu'elle soit, est simplement son conatus, son effort de persévérer dans l'existence. Les lois de la nature d'une chose prescrivent donc à la chose de s'efforcer de préserver son être. Par conséquent, conclut Spinoza, merci, le fondement de la vertu est l'effort même pour conserver son être. Plus précisément, l'homme vertueux est celui qui suit proprement les lois de sa propre nature et agit pour conserver son être. En d'autres termes, la vertu n'est pas simplement l'exercice de pouvoir, mais l'effort de persévérance couronné de succès. Il dit, quatrième partie, proposition 20, démonstration, « Plus donc chacun s'efforce de conserver son être, et plus chacun en a le pouvoir, plus il est doué de la vertu. » Inversement, le contraire de la vertu consiste non pas à agir selon sa propre nature, mais à agir selon la nature des choses extérieures. L'homme qui manque de vertu et de puissance, et ici Spinoza, se laisse passivement conduire par les choses qui lui sont extérieures, est déterminé par elles à faire ce que réclame la Constitution commune des corps extérieurs, et non ce que réclame sa propre nature, considérée en elle seule. Pour l'instant, Spinoza ne rend compte que formellement de la vertu, sans lui donner un véritable contenu. Aucun renseignement substantiel sur le genre d'homme qui s'efforce en vue du meilleur pour la préservation de soi, ni sur la manière d'agir afin de suivre les lois de sa propre nature, ne se trouve dans l'affirmation que plus chacun s'efforce de rechercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être, et plus il en a le pouvoir, plus il est doué de la vertu. Nous aimerions savoir ce qu'impliquent les notions vagues « suivre les lois de sa propre nature » et « s'efforcer de rechercher son propre avantage » et comment nous pouvons les mettre à l'œuvre dans notre vie. Mais c'est précisément ici que le rationalisme de Spinoza revient. Non pas comme un principe métaphysique ou épistémologique, mais comme un principe moral. Spinoza identifie vivre selon sa propre nature avec vivre selon la raison. Un homme vit selon sa propre nature quand les choses qu'il fait ont leur cause adéquate dans cette nature elle-même et non pas quand il agit par les moyens par lesquels les choses extérieures l'affectent. C'est-à-dire qu'il vit selon sa propre nature quand il est actif et non passif. Un homme est actif quand ce qu'il fait est conforme à ses propres idées adéquates, à sa connaissance rationnelle des choses, et non aux idées inadéquates ou aux passions. La conduite de la raison s'incarne dans ce qui Spinoza nomme les commandements de la raison, dictamina rationis. Ces commandements sont fondés dans le conatus de l'individu et représentent une sorte d'expression propositionnelle éclairée de cet effort naturel. Ces commandements demandent que, et ici je cite Spinoza, chacun s'aime lui-même, recherche ce qui lui est utile, ce qui lui est véritablement utile, et aspire à tout ce qui mène véritablement l'homme à une plus grande perfection, et absolument parlant, que chacun s'efforce autant qu'il est en lui de conserver son être. Plus important encore, la raison nous enseigne comment atteindre ces objectifs. Et elle le fait universellement et objectivement, sans égard aux particularités personnelles. Un peu comme Kant a dit. Oh, comme Kant dira. Parmi les premières choses que demande la raison, on trouve ce règle. Il faut aspirer à la vertu pour elle-même et qu'il n'y a rien qui vaille mieux qu'elle ou ne soit plus utile. Mais parce que nous sommes toujours et nécessairement une partie de la nature et qu'il nous est toujours impossible de faire que nous n'ayons besoin d'aucune chose extérieure à nous pour conserver notre être et de vivre sans avoir commerce avec les choses qui nous sont extérieures, la raison aussi demande de nous efforcer de posséder bien des choses extérieures qui nous sont utiles. La vertu de Spinoza, en d'autres termes, n'exige pas une retraite ascétique du monde, mais une navigation avec plus de connaissances, et donc avec plus de succès, dans le monde, et une utilisation plus efficace des choses extérieures. L'homme vertueux peut déterminer ce qui est véritablement utile à son bien-être et ce qui ne lui est pas utile. L'homme vertueux discerne vraiment ce qui est dans son propre intérêt et il désire activement ce qui sert réellement sa propre puissance de persévérer. Mais évidemment, l'éthique, comprise ordinairement ne concerne pas seulement la préservation de soi. Oui, nous sommes égoïstes, mais nous attendons un peu plus de l'éthique. Spinoza doit donc dire aussi quelque chose sur la manière de se comporter envers les autres. Même si elle est motivée par la poursuite de l'intérêt personnel et de la conservation de soi. Spinoza le sait bien, et donc il propose, dans la quatrième partie de l'éthique, un bref discours sur les moyens par lesquels un homme qui est conduit par la raison agira envers les autres. Certes, en principe, il est possible d'opter une éthique qui me conduise à bafouer le bien-être des autres dans la recherche de mon propre bien-être. Mais Spinoza, sagement, soutient que l'égoïsme qui se trouve au cœur de son système favorise des moyens d'agir envers les autres qui soient bienveillants et respectueux. Des moyens que nous, intuitivement, reconnaissons comme éthiques. 3. Faire aux autres. L'égoïsme de Spinoza, comme n'importe quel égoïsme, pour autoriser les actions qui sont orientées vers le bien-être des autres, sans aucune pensée consciente de la façon dont une telle activité rejaillit sur le bien-être de l'agent lui-même. Spinoza ne nie pas le phénomène de l'altruisme. Il montre seulement que le vrai motif d'un tel phénomène se trouve dans une force psychologique singulière, c'est-à-dire dans l'effort de l'individu pour sa propre conservation. On connaît un moyen facile et peu onéreux qui permet à une philosophie morale fondée sur l'égoïsme de considérer les autres d'une manière qui, intuitivement et préthéoriquement, satisfait aux critères éthiques. C'est la règle d'or. Faire à autrui ce que vous auriez voulu que d'autres fassent pour vous. Entendons, un agent mû seulement par l'égoïsme peut être incité à agir envers les autres avec bienveillance parce que cela rend plus probable que les autres le traiteront en retour avec bienveillance. Traiter les autres avec gentillesse parce qu'ensuite ils agiront réciproquement de même et vous traiteront avec gentillesse. Cependant, Spinoza n'est pas l'homme des moyens faciles et bon marché. Rien ne vient aisément avec Spinoza. L'homme vertueux de l'éthique ne se fondera pas simplement sur la possibilité de susciter la bonne volonté des autres par ses propres bonnes actions. Même si l'attente de la réciprocité de la part d'autrui est fondée non sur une croyance probable, mais sur une connaissance vraie et certaine, elle ne suffit pas à l'homme vertueux spinoziste. Un tel homme, conduit par la raison, ne cherche pas seulement à infléchir ou à transformer les actions des autres avec lesquelles il doit interagir en société. Il veut plutôt transformer les individus eux-mêmes. Voici le point important. L'homme vertueux veut transformer les individus eux-mêmes. Il veut modifier leur caractère. L'homme vertueux de Spinoza veut que les autres deviennent également des hommes vertueux. En ce sens, sa quête est la même de celle de Socrate, qui, dans l'Apologie, en réponse à l'accusation selon laquelle il a corrompu les citoyens d'Athènes, réplique qu'une telle accusation est absurde, parce qu'aucun citoyen ne veut habiter parmi des citoyens corrompus. Comme Socrate, l'homme vertueux de Spinoza veut bonifier les autres parmi lesquels il doit vivre. Il veut en effet les rendre davantage semblables à lui-même. Une autre possibilité spinoziste, également traditionnelle, pour atteindre à un comportement vertueux envers les autres, trouve son origine dans l'imagination. Plus précisément, un tel comportement peut trouver son origine dans les idées inadéquates qui viennent de l'expérience vague. L'amour, compris comme un affect passif, est défini par Spinoza comme une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire qu'on aime la chose extérieure qui apporte une augmentation de puissance en nous. Spinoza démontre ainsi qu'un homme s'efforcera de faire du bien à ceux qui lui causent de la joie, qu'il aime, aussi bien qu'à ceux dont il croit qu'il l'aime. Il va aussi s'efforcer de faire du bien à qui hate. Il va aussi s'efforcer de faire du bien à qui hait, quelqu'un ou quelque chose qu'il hait lui-même. Mais ce comportement bienveillant envers les autres est fondé dans les passions, dans les affects passifs, et non pas dans les affects actifs. Et un tel fondement est instable et imprévisible pour le comportement moral, d'autant qu'il reste dépendant de la manière selon laquelle une personne est affectée par d'autres ou par des choses extérieures. Des considérations analogues s'appliquent à la personne qui agit avec bienveillance envers les autres par pitié. Dans la mesure où la conatus et le désir d'un homme sont dirigés par les passions de l'amour, de la haine ou de la pitié, il reste dans un état de servitude et non de vertu. Ses actions sont dictées par ce qui produit en lui un affect de plaisir ou de douleur, et non pas parce qu'il sait être un vrai bien. Comme Spinoza le dit, une telle personne éprouve alors une impuissance qui consiste seulement en ce que l'homme se laisse passivement conduire par les choses qui lui sont extérieures et déterminé par elles à faire ce que demande la constitution commune des choses extérieures et non ce que demande sa propre nature considérée en elle seule. Ce n'est pas par un affect passif que l'homme vraiment vertueux et rationnel traite les autres d'une manière bienveillante et morale. Certes, l'égoïste rationnel sera évidemment amené par son égoïsme à prendre soin du bien-être des autres aussi bien que du sien propre. Mais pour lui, ce ne sera pas à cause d'un amour passionnel des autres, d'un espoir de réciprocité, de la peur d'être traité misérablement, de la sympathie, ou des menaces. Spinoza ouvre sa discussion de la bienveillance dans la quatrième partie avec une allégation qui appartient en propre à sa métaphysique de l'individu et renvoie à l'effort qui caractérise n'importe quelle chose dans la nature. Il dit que, en tant qu'une chose convient avec notre nature, en cela elle est nécessairement bonne. Une chose qui convient à ma nature est bonne pour moi parce qu'une telle chose aidera nécessairement à la conservation de cette nature. Une chose qui partage ma nature doit, comme n'importe quelle chose, s'efforcer de persévérer dans sa propre nature. Et parce que sa nature est la même que la mienne, elle s'efforce de conserver ma nature. D'autre part, entendre qu'une chose a une nature qui est différente de la mienne, ou contraire à elle, elle est ou bien indifférente pour moi, ni bonne ni mauvaise, ou bien mauvaise pour moi. Le corollaire de cette proposition dit que plus une chose convient avec notre nature, plus elle nous est utile. Spinoza veut dire ici que les choses qui conviennent en nature qui partagent la même nature, sont bonnes l'une pour l'autre et contribuent nécessairement et réciproquement à leur épanouissement. Cet argument a fait l'objet d'une réception critique de la part des commentateurs, avec bonne raison, mais pour des raisons très variées et nombreuses pour être résumées ici en détail. Mais voici en bref quelques-unes des objections plus sérieuses. 1. L'argument semble confondre un individu avec sa nature ou ses propriétés essentielles. Un individu, selon Spinoza, s'efforce de conserver son propre être et non sa nature. Et même si, en se conservant, il contribue par ce même moyen à la conservation de sa nature, il ne s'ensuit pas qu'il contribue ainsi à la conservation d'un autre individu qui a la même nature. Donc, l'argument n'établit pas que toute chose qui partage ma nature ou s'accorde avec ma nature est nécessairement bonne pour moi. 2. L'argument repose sur l'hypothèse indéfendable selon laquelle ce qui est utile ou fait du mal à quelque chose qui me ressemble, m'est utile ou me fait du mal aussi, et par le fait même. Qu'une chose m'aide, me soit utile ou me fasse du mal, ne dépend pas seulement de la façon dont elle se rapporte à ma nature toute seule, mais aussi d'autres facteurs, par exemple la proximité spatiale ou temporelle. Donc, quelle que soit la ressemblance de deux choses dans leur nature, il se peut que ce qui est utile à l'une ne soit pas utile à l'autre. Deux individus, même s'ils sont parfaitement identiques, restent deux individus distincts et pourraient donc avoir des intérêts contradictoires et réagir différemment à une même chose. 3. L'argumentation elle-même semble reposer sur un équivoque. Spinoza semble soutenir que si un individu agit pour se conserver, il agit par ce moyen pour conserver sa nature et donc il agit pour conserver les autres choses qui partagent cette même nature, par exemple moi-même. Le problème est le suivant. Même si quelqu'un agit pour conserver sa nature dans la mesure où cette nature est instanciée dans son existence, il ne s'ensuit pas que par ce moyen, il agisse pour conserver cette nature elle-même ou d'autres de ses instanciations. Peut-être mes efforts pour persévérer dans l'existence contribuent-ils à la conservation de la nature humaine dans la mesure où mon existence continuelle constitue l'existence continuelle d'une instance de la nature humaine. Mais à mon avis, il n'est pas évident de saisir comment mon existence continuelle contribue à l'existence des autres instances de la nature humaine. Alors, en dépit des problèmes logiques et de fond que pose ce premier temps de son argument, Spinoza conclut qu'il n'y a rien plus excellent que les choses qui s'accordent complètement avec ma nature, et que rien n'est plus utile pour conserver mon propre être que de s'unir avec quelque chose qui partage ma nature, c'est-à-dire avec un autre homme qui me soit très semblable. C'est pourquoi quelqu'un qui agit selon la raison, qui agit avec vertu et selon les commandements de la raison, va se comporter de telle manière qu'il suscitera la vertu et de la rationalité des autres afin que leur nature soit le plus semblable à la sienne. C'est-à-dire qu'il traitera les autres de telle manière que leur conatus ou puissance d'agir soit augmentée et que leur vie soit ainsi améliorée. Et il le fera parce que, comme un égoïste, il sait par la raison seule, pas par les passions. Il sait qu'il est de son propre intérêt de le faire. Pourtant, tout cela reste très général. La question de la validité de l'argument de Spinoza étant laissée de côté, nous souhaiterions un peu plus de précision quant à la façon dont on a tout à gagner en améliorant la vie des autres. Comment mon propre bien-être est-il promu si je donne de l'aide aux autres pour améliorer leur vie et pour les conduire à vivre selon la raison et la vertu? Moi, considéré comme un homme vertueux qui vit sous la conduite de la raison, pourquoi dois-je faire du bien en s'efforçant d'accroître les pouvoirs des autres et en les rendant davantage semblables à moi? Une réponse à cette question semble être quantitative. C'est parce que deux têtes valent mieux qu'une. En anglais, nous disons « two heads are better than one ». Je ne sais pas si aussi c'est quelque chose qu'on dit en français, mais vous comprenez, je crois. Deux têtes valent mieux qu'une. En particulier, si elles sont d'accord sur des questions aussi importantes que de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et voici le premier texte dans le papier. Si en effet deux individus, par exemple, ayant exactement la même nature, se joignent l'un à l'autre, ils composent un individu deux fois plus puissant que chacun pris séparément. À l'homme donc, rien de plus utile que l'homme. Il n'est rien d'injure que les hommes puissent souhaiter de mieux pour conserver l'être que de s'accorder tous en toutes choses, en sorte que les esprits et les corps de tous composent pour ainsi dire un seul esprit et un seul corps. De s'efforcer tout ensemble de conserver leur être autant qu'ils peuvent et de chercher tous ensemble et chacun pour soi l'utile qui est commun à tous. Bien qu'il y ait beaucoup d'éléments implicites dans ce texte, Spinoza semble insister sur le fait que deux hommes représentent ensemble un renforcement par redoublement de la même puissance. De même que deux personnes poussant une voiture produisent plus de puissance qu'une personne. Cette interprétation est suggérée quand Spinoza dit que notre puissance d'agir peut être déterminée et par conséquent être aidée ou bien contrariée par la puissance d'une autre chose singulière ayant quelque chose en commun avec nous. Deux choses de même nature, donc deux choses qui s'efforcent au titre de cette même tâche, la conservation de cette nature, vont augmenter la probabilité de réussir dans cette tâche. Les humains sont évidemment utiles les uns aux autres également dans la mesure où ils ne se sentent pas semblables. Une communauté qui ne serait constituée que de charpentiers ou de philosophes fonctionnerait beaucoup moins efficacement qu'une communauté constituée de personnes de talents divers et de compétences complémentaires. Mais ce que Spinoza veut dire ici de plus important est que les hommes ne sont bons et utiles les uns aux autres que dans la mesure où ils s'accordent dans leur nature et donc dans la mesure où ils partagent un projet commun et une vision commune des choses et de leurs valeurs. Ce sont nos différences et nos particularités, et non pas ce que nous avons en commun, qui nous divise et nous oppose les uns aux autres. Et rien ne contribue plus à nos différences mutuelles que les passions. Les plus grandes différences et les plus grands désaccords entre nous ont leur origine dans les façons dont nous percevons et sentons les choses. Nos différences corporelles, les différences dans les choses avec lesquelles nous entrons en contact et les façons dont elles nous affectent font naître des façons différentes de percevoir le monde et d'y réagir. Les désaccords humains sont fondés sur nos désirs passionnels des choses, évidemment accrus par le fait que nous valorisons, en raison de nos idées inadéquates, certaines choses. Et tout le monde ne peut pas entrer également en opposition. Les désirs passionnels tendent ainsi à être dirigés vers le bien fini et changeant, les choses qui ne peuvent pas être obtenues par plus de quelques-uns. En revanche, les hommes vertueux qui vivent selon la raison conviennent toujours aux natures. Cela doit être compris dans un sens négatif et dans un sens positif. Dans le sens négatif, il convient aux natures si les facteurs qui, au-delà de ce qui est commun entre les hommes, conduisent à les différences, c'est-à-dire les passions, sont sensiblement diminués. Plus important encore, dans le sens positif, les individus qui vivent selon la raison valorisent les mêmes choses et poursuivent les mêmes biens. Et le bien que les personnes vertueuses et rationnelles valorisent et poursuivent n'est pas un bien fini. Ce n'est pas un produit non renouvelable, mais c'est quelque chose d'éternel, d'impérissable et capable d'être partagé par tous, c'est-à-dire la connaissance. Il dit, quatrième partie, proposition 36, « Le souverain bien de ceux qui suivent la vertu est commun à tous, et tous peuvent en avoir un égal contentement. » Dans la mesure où quelqu'un est dirigé par la raison, il ne fait que ce qui est vraiment bon pour sa nature, c'est-à-dire pour la nature humaine. Or, cette nature est ce qu'il a en commun avec tout le monde. Donc, ce vers quoi la personne rationnelle s'efforce est bon non seulement pour lui-même, mais pour moi aussi et pour tous les hommes. L'autrui rationnel s'efforce proprement pour l'amélioration de sa propre nature. Or, sa nature est aussi ma nature. Donc, l'autrui rationnel s'efforce en effet pour mon amélioration. Ce n'est que l'application de l'argument de quatrième partie, proposition 31, examinée ci-dessous. En tant que les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils font nécessairement les actions qui sont nécessairement bonnes pour la nature humaine et par conséquent pour chaque homme. L'homme rationnel poursuit les vrais biens, qui sont des biens pour tout le monde. Et il agit d'une façon telle qu'il aide l'effort humain à persévérer. C'est pourquoi Spinoza conclut qu'il n'y a pas dans la nature des choses de choses singulières qui soient plus utiles à l'homme que l'homme qui vit sous la conduite de la raison. Et que c'est quand chaque homme recherche au plus haut point ce qui lui est utile à lui-même que les hommes sont le plus utiles les uns aux autres. L'individu vertueux sait qu'il vivra mieux s'il est entouré d'autres personnes vertueuses et rationnelles qui tout ensemble s'efforcent pour la même chose, c'est-à-dire pour la maximalisation du vrai bien humain, la connaissance, et la perfection de leur nature commune. L'homme vertueux essaiera, par ses actions, d'aider les autres à atteindre la vertu rationnelle. Ainsi va-t-il agir envers les autres avec bienveillance, noblesse, justice et charité. Et il le fera même envers ceux qui sont le plus dans la servitude des passions. Comme Spinoza dit, qui vit sous la conduite de la raison s'efforcera autant qu'il le peut de compenser la haine, la colère et la mésestime, etc., par l'amour, autrement dit, par la générosité. Tel semble être le résultat de l'argumentation de Spinoza en faveur d'une fondation égoïste de la vertu rationnelle de bienveillance envers les autres et de l'effort pour améliorer leur vie. Mais l'utilité pour moi d'une autre personne vertueuse va au-delà d'un fait métaphysique que les choses qu'elle poursuit sont ce qui est bon pour la nature humaine, donc ce qui est bon pour tout le monde, donc bon pour moi. Selon Spinoza, il y a de plus les rapports supplémentaires entre la vertu et l'épanouissement des autres, d'une part, et d'autre part, mon propre bien-être, de sorte que je dois, pour moi-même, promouvoir leur épanouissement. Premièrement, celui qui vit sous la conduite de la raison sera utile pour moi dans mon propre effort rationnel pour persévérer, parce qu'il sera libre des passions qui nuisent et divisent comme la jalousie, l'envie et la haine, les affects passifs qui feraient qu'il s'oppose à mes efforts. En effet, si une personne qui vit sous la conduite de la raison s'efforce pour les mêmes biens non finis que moi, la connaissance et le bien-être, il m'aidera dans ce projet de façon positive, parce qu'il verra clairement que plus que je suis rationnel et vertueux, plus que je suis libre des passions qui divisent, et donc plus je lui serai utile. Il y a donc bien pour moi un sens à chercher à aider autrui à vivre une vie meilleure, pour l'aide qu'il me donnera en retour. Et je sais qu'il m'aidera en retour, non pas au titre d'une bonne volonté réciproque, ou de pitié, ou de sympathie, mais au titre de l'intérêt personnel éclairé. C'est pourquoi c'est mon intérêt bien compris de faire de l'autre quelqu'un qui verra qu'il est dans son intérêt de m'aider à accroître ma puissance d'agir. Deuxièmement, Spinoza semble croire que si je m'entoure d'individus qui sont vertueux et rationnels, cela aidera à renforcer positivement mon propre désir de vivre sous la conduite de la raison et donc ma propre poursuite de la perfection. C'est là quelque chose que quelqu'un de rationnel reconnaît. Spinoza dit dans son analyse des affects, et voici le deuxième texte du papier, Spinoza dit, si nous imaginons que quelqu'un aime ou désire ou a en haine quelque chose que nous-mêmes aimons, désirons ou avons en haine, par là nous aimerons être la chose avec plus de constance. C'est le projet de Madison Avenue, ce que les avertissements veulent faire. Si Michael Jordan aime les sneakers, ou si Raphaël Nadal aime une sorte de boisson, tout le monde l'aimera mieux. Donc, c'est l'argument de Madison Avenue. Si je vois quelqu'un qui aime la vertu et qui désire la connaissance, j'aimerais et je désirerais d'autant plus la vertu et la connaissance. Il est donc utile pour moi et il est dans mon propre intérêt de m'assurer que d'autres aiment la vertu. Voici le troisième texte. Un bien auquel un homme aspire pour soi et qu'il aime, il aimera d'un amour plus constant s'il voit que d'autres l'aiment. Et par suite, il s'efforcera de faire que tous les autres l'aiment. Et comme ce bien est commun à tous et que tous peuvent en avoir contentement, il s'efforcera donc, pour la même raison, de faire que tous en aient contentement. Enfin, si je vois une amélioration chez quelqu'un qui me ressemble, c'est-à-dire, si je vois un autre homme qui connaît la vraie joie ou l'augmentation de sa puissance d'agir, cela me cause une joie sympathique et une augmentation corrélative de ma propre puissance. Voici le quatrième texte. De ce que nous imaginons une chose semblable à nous et à la garde de laquelle nous n'éprouvons d'affection d'aucune sorte affectée d'un certain affect, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. Encore une fois, c'est à mon avantage et pour mon propre bien que d'autres sont vertueux. Il y a donc prima facie un paradoxe dans la théorie de Spinoza. Ce qu'il dit implique que quelqu'un est le plus utile aux autres quand il poursuit, sous la conduite de la raison, son propre intérêt. Comme nous l'avons vu, c'est quand chaque homme recherche au plus haut point ce qui lui est utile que les hommes sont le plus utiles les uns aux autres. Un égoïsme éclairé, en d'autres termes, conduit à l'utilité mutuelle maximale. Spinoza souligne non seulement que cette conclusion est certaine par déduction, mais aussi que, comme il dit en quatrième partie, l'expérience elle-même l'atteste également chaque jour, et donc qu'elle est évidente pour tous. Tout le monde sait, il dit, que l'homme est un Dieu pour l'homme. La conséquence de tout cela est qu'un homme qui est conduit par la raison, qui voit ce qui est vraiment dans son propre intérêt, s'efforcera d'amener les autres au même niveau de perfection rationnelle que lui-même. Cela signifie que la bienveillance ou la bonne volonté envers les autres manifestée par l'homme rationnel ne réside pas seulement dans un comportement attentionné dans toutes les interactions avec les autres. La bienveillance vertueuse ou rationnelle n'est pas simplement une attitude passive due à la tolérance envers les faiblesses des autres hommes. Pas davantage n'est-elle cette sorte de générosité et de neutralité quant aux valeurs qui caractérisent le libéralisme classique, où on fournit aux autres les choses dont ils ont besoin pour rechercher ce qu'ils pensent être bon, et où on les aide ainsi à atteindre leurs objectifs et leurs projets, quelle qu'en soit la valeur. Non, quelqu'un de vertueux et de rationnel s'engage bien plutôt activement pour œuvrer à ce que les autres se mettent aussi sous la conduite de la raison, et qu'ils poursuivent le vrai bien, c'est-à-dire la connaissance. C'est ce qui va maximaliser leur utilité pour lui-même dans sa quête pour sa propre perfection. Spinoza dit, proposition 37, « Le bien auquel aspire pour soi chaque homme qui suit la vertu, il le désirera aussi pour tous les autres hommes. » En d'autres termes, l'homme vertueux et rationnel agira de sorte que les autres aussi deviennent vertueux et rationnels. Il se comportera envers eux d'une manière qui les aidera à atteindre la vie selon la raison. Mais parce que c'est aussi leur propre intérêt d'être rationnel et vertueux, tout cela veut dire que l'homme qui vit sous la conduite de la raison s'efforcera de promouvoir l'intérêt des autres, d'agir d'une manière qui fasse vraiment le bien des autres, mais pour des motifs qui sont égoïstes et non altruistes. Je conclue. Le point de vue de Spinoza est donc que l'égoïsme rationnel ne conduit pas à l'indifférence ou au mépris du bien-être des autres, mais tout au contraire, il conduit au plus haut degré du comportement éthique. Je cite Spinoza, proposition 18 de quatrième partie. Si je l'ai fait, c'est pour me ménager, s'il est possible, l'attention de ceux-là qui croient que le principe selon lequel chacun est tenu de rechercher ce qui lui est utile est le fondement de l'impiété et non de la vertu et de la piété. L'homme vertueux de Spinoza ne s'engage pas simplement dans un comportement envers les autres qui serait bienveillant ou attentif. Il ne les traite pas simplement avec amour. Par ses actions, il veut, comme Socrate, les améliorer. Il veut les rendre plus vertueux et donc plus heureux. Tel est bien le comportement qui apparaît comme le plus parfaitement moral. Je vous remercie pour votre patience.